peut faire une étude pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, la foi, c'est un sujet inépuisable. Et c'est aussi la base pour notre vie spirituelle. Et je vais continuer. Donc, mon sujet ce matin, c'est l'efficacité de la foi. Il a parlé de la foi agissante qui agit. Il nous a même donné quelques exemples, vous vous souvenez? Il a su par la foi même mettre sa sixième vitesse en route parce que la boîte de vitesse était cassée. Vous vous souvenez de ça? Il a prié pour sa voiture, il n'y avait pas d'argent pour la réparation, mais en même temps, il a communiqué cette bonne nouvelle à son beau-père qui avait des problèmes dans les toilettes, et puis les toilettes ont été réparées. C'est bien ça? Bon, voilà. Mais seulement Alexis, quand il était plus petit, il a aussi vu qu'une fois, quand on a prié pour un ordinateur qui ne fonctionnait pas, hein, tu te souviens? Il ne fonctionnait pas, il est resté là pendant peut-être 2 mois, puis à la fin, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et il était là, et tout ensemble, on dit, au nom de Jésus, l'ordinateur, mets-toi en route, et puis il s'est mis en route. Et il fonctionnait longtemps, longtemps. Et j'avais pas trop de foi pour ça. Et pourtant, mais je me suis dit, il faut qu'il voit. Hein, ben voilà, certains ont la foi pour ça, d'autres pour autre chose, etc. Il nous a donné quelques. Mais finalement, la base de la foi, ce n'est pas juste de parler de la voiture. La foi, c'est le moyen du salut. Hein. Par la foi en Jésus-Christ, d'accord? Nous sommes sauvés, sauvés, réconciliés avec Dieu Tout-Puissant. Alors, ce matin, mon sujet, l'efficacité de la foi. Donc, pour que ma foi soit efficace, d'accord, il faut faire quelque chose, il faut la nourrir, il faut faire grandir la foi. Hein, parce que ce qu'il nous a dit, il faut croire, voilà, Dieu va faire des choses. Et ce matin, avant le culte, ça priait aussi dans tous ces sens-là. Mais si on proclame, si on dit des choses, et si on n'a pas la foi, ça ne va pas bouger, hein, parce que on entend tellement des bruits autour de nous, il y a des chanteurs, il y a des comédiens, il y a toutes sortes de choses, des proclamations. Voilà. Mais s'il n'y a pas Dieu, ah ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est bien d'accord. Voilà. Alors, Romains 10, verset 17. On va nourrir la foi. On va faire grandir la foi ce matin. Et il nous reste encore 1 heure. Et on a déjà chanté. On va déposer nos fardeaux. On partira tous libres. Libres. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues avec des fardeaux. Et inutile de vous dire que ben, moi aussi, je suis venu avec un petit fardeau. J'ai quelques problèmes dans ma santé, par-ci, par-là, vous savez, ben, la vie est comme ça. Et j'aurais aimé de déposer ma faiblesse dans mon corps. C'est un fardeau. Pourquoi on doit souffrir dans nos corps? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres qui ont un autre problème, un autre défi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va vraiment mettre un paquet ce matin. Enfin, depuis 8h30, ça monte, ça monte, ça monte. Et la louange nous a conduits, voilà, nous a vraiment encouragés pour aller plus loin. Et ce matin, voilà, tout à l'heure, dans quelques instants, on va vraiment déposer nos fardeaux. On va déposer. Moi, je vais déposer le premier, mon fardeau. Voilà, je n'ai pas besoin de traîner ça. On va régler tout ça et on avance. Amen. On avance. Donc, l'Épître de Romains, chapitre 10, nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez compris, c'est clair, hein? Pour que ta foi, ma foi, puisse grandir, il faut la nourrir par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la parole de Dieu. Je vous conseille de lire la parole de Dieu. Chaque jour, au moins un verset, minimum, minimum. D'autres lisent beaucoup plus, mais au moins un petit verset. Parce que quelquefois, il y a des versets où il y a une puissance, il y a un enseignement, il y a un encouragement. D'accord? Donc, je lis la parole de Dieu, pour que ma foi puisse grandir. Il y a des choses qui doivent se passer. Si ma foi est petite, si je doute, je ne peux pas progresser. Vous voyez, je ne peux pas recevoir. Donc, voilà, il faut travailler la foi. Il faut nourrir la foi. Il faut que la foi puisse grandir. Parce que par la foi, je vais saisir des choses. Je vais changer les circonstances. Je vais faire de belles choses. Donc, lire la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Réfléchir, méditer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous propose des groupes de fondamentaux. On appelle ça fondamentaux. Plusieurs niveaux, 4 niveaux, je pense. Voilà, 4 niveaux. Voilà, il y a aussi une étude biblique dans la semaine, mardi soir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir juste avant le culte et qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais vraiment commencer à zéro, au début. Alors j'ai compris que la personne, elle ne sait peut-être même pas ce que c'est vraiment la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais on est tous passés par là. Il faut apprendre, vous comprenez? Si vous jetez quelqu'un dans une étude biblique où on parle du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, voilà. Et puis on n'a pas compris que finalement il y a 4 évangiles, qu'il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Pierre, etc., etc. Et comment ça s'est passé que nous parlons du salut. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui est important. On découvre Dieu, on est touché, on est visité, et pour que la foi soit efficace, il faut comprendre. Ah bon, ah oui, il y avait 12 disciples, ah oui, et il y en a un qui trahit Jésus. Mais il faut apprendre tout ça, non? C'est facile pour ceux qui savent déjà, comme pour moi, quelquefois, j'ai l'impression que des choses, tout le monde devrait connaître. Mais finalement, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, pour que cette foi soit efficace, forte, il faut commencer à lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, voilà, avoir de la connaissance, mais il ne faut pas que ça reste juste intellectuel, que ce soit un domaine intellectuel. Donc ensuite, voilà, nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, d'accord? Si c'est que dimanche, si tu viens que dimanche, et tu fais rien dans la semaine, tu lis pas la parole de Dieu, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, moi si quand j'étais jeune, si je me basais seulement sur la prédication et aussi les chants, la louange, parce que quand j'écoutais bien, je réfléchissais sur les expressions, les paroles fortes que nous avons exprimées dans la louange, ça nous parle aussi, ça nous motive. Et en même temps, voilà, donc, mettre cette parole que nous écoutons, que nous lisons, d'accord, que nous recevons, mettre cette parole en pratique. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, notre foi sera morte. Pas du tout efficace. Donc il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Prier, ça c'est quelque chose de très important pour que ma foi grandisse. Je me répète, il faut que je prie. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il faut que j'intercède. Intercéder, c'est... La prière, c'est plutôt le dialogue avec Dieu, mais intercéder, c'est un combat, c'est s'accrocher, puis c'est comme si que vous avez un mur devant vous, voilà, vous prenez une mèche, là, et vous persévérez, voilà, vous, dans la persévérance, vous intercédez, et voilà, on perce, ça dure, c'est difficile, encore un petit peu, et tout à coup, boum, on perce, le dernier centimètre saute, et on a percé. Mais avant, percer un mur de 50 centimètres, ça, c'est dur. Vous comprenez? Dans l'intercession, c'est un combat. Il faut aller. Il faut faire peur à l'ennemi. C'est comme un chien. Un chien, bon, il y a des gens qui aiment bien le chien. Moi aussi, j'avais un chien quand j'étais petit. C'est ce que c'est avoir un chien. Un chien, il est très fort quand vous vous barrez, vous partez. Vous voyez un chien, et puis tout à coup, Lui, il court après vous. Et puis plus on court, ah ben lui, il court après vous. Mais si vous êtes courageux, vous vous retournez et vous vous dites, c'est fini. Alors lui, il réfléchit, il tourne la tête et il se barre. Bon, pas tous, attention. Hein. Vous battre, c'est un combat. Donc, la prière, l'intercession, la proclamation, proclamer les promesses de Dieu. Alors, chez moi à la maison, j'ai toujours cet enfant, ça, il venait de l'école, avec toutes les expressions, tu es ça, voilà, je suis nul, etc., ce que vous connaissez. Et moi, quelquefois, j'ouvrais la fenêtre, tu es nul, ah ben, la nulleté, j'ouvre la porte, pfft, dehors, dehors. Tu vas réussir, ah bon? Tu es capable, oui. Ah, les résultats sont pas très bons. Ah ben, ça ira mieux, ça ira mieux. Vous voyez toujours les positifs. Parce que nous avons Dieu puissant et je crois que ça peut, Dieu nous aide. Donc les proclamations. Et puis, il y avait un moment où, quand on a démarré l'église à Waterloo, voilà, la construction, etc., etc. Donc j'ai adapté une expression, et chaque fois, je disais, en avant! Ça voulait dire quoi? Ben, avance! Fais quelque chose! Ne t'arrête pas! Si tu t'arrêtes, ben, tu recules avec le temps. On est bien d'accord? Si on n'avance pas, on recule. Voilà. Ça ira! Ici, dernièrement, à plusieurs pasteurs. Ils sont pas ça. Ils ont des combats aussi. Hein. Ça, vous êtes conscients? Un pasteur, on est tous au même niveau en tant qu'homme. Sauf que chacun a un outil. Alors, j'envoie un petit mot, puis j'ai dit, lève ta tête et marche. Et lui, il me répond, ah, merci pour ton expression, j'étais complètement dans le trou, j'étais découragé, et tu m'envoies une expression comme ça. Fred, j'étais fier de moi un petit peu, hein. Ça m'arrive, hein. Tu comprends? Lève ta tête. Lui, il a compris. Un pasteur qui parle à un autre pour lui dire lève ta tête et avance, ah ben lui, il a tout compris. C'est une prédication. On fait tout de suite une prédication. On a compris ce qu'il voulait dire. Et puis, il y avait un autre moment aussi, à quelqu'un, j'envoie un petit message et je lui ai dit ne te décourage pas. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ne te décourage pas, pas de relâchement, pas de relâchement. À lui, il me répond, mais c'est incroyable, mais j'étais décidé de tout arrêter, tout lâcher. J'en ai marre, ça n'avance pas, etc., etc. Et voilà, tu m'envoies un petit mot comme ça. Vous m'avez compris? On proclame les promesses de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Tu vas réussir, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ce sont des promesses, il y en a tellement dans la Bible. Amen. Voilà, donc vous voyez, pour que la foi puisse grandir, il faut, je répète, prier, intercéder, proclamer les promesses de Dieu. Et la liste n'est pas finie. Et bien sûr, écouter les conseils de Dieu, écouter les interpellations de Dieu. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Dieu nous parle quelquefois déjà par la louange. Quand vous êtes dimanche matin, là, dimanche matin, Dieu vous parle quelquefois par l'attitude de quelqu'un. Vous avez déjà remarqué? Quand vous venez là et puis vous êtes triste, vous êtes figé là, et puis quelqu'un qui est dans le même état, ben, il dit, il n'y a pas que moi qui est comme ça. Mais tout à coup, il se tourne vers quelqu'un d'autre, il voit quelqu'un d'autre et souriant, joyeux. Ah bah, il y a le message qui passe. Il y en a qui sont en forme. Il y en a qui ont la foi. Il y en a qui avancent. Alors, ça vous donne le courage pour aller plus loin. Donc, voilà. Être enseignable aussi. Quand j'étais jeune, bon, je suis pas très vieux non plus, mais bon, j'étais plus jeune quand même. Hein, Dominique? Voilà, j'avais l'impression, j'avais donc, voilà, entre 30 et 40 ans, j'étais déjà prédicateur, j'ai commencé à 25 ans, puis je voyais que les gens m'écoutaient, m'aimaient dans des conventions, etc. Et j'avais l'impression que je le savais tout. Quelquefois, j'étais devant un vieillard et je me suis dit dans mon cœur, bon, écoute, bouge-toi un peu plus, tu vois. Il y avait un moment où j'ai compris que, mais finalement, je ne sais pas tout, que je dois apprendre. Il y avait un moment où il y avait un grand-père devant moi et dans mon cœur, je l'ai sous-estimé un peu. Et je lui ai parlé et il avait tellement d'amour envers moi. Et je me suis dit, cet homme est un exemple pour moi. Mais je suis plus orgueilleux que lui, il y a 30 ans plus que moi. Et je me suis écrasé devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vais prendre l'exemple de ces cheveux gris, de ces hommes qui ont marqué la région, les églises, la vie, qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Être enseignable, écouter, digérer, discerner. Et puis tout ça, ça fait monter la foi, monter la foi, monter la foi, monter la foi. Il y aura peut-être des voitures avec cette vitesse. Bon, sixième, ça a été réparé, mais il va falloir réparer septième vitesse. Hein. C'est ça. Un peu plus de foi. Bon, c'est symbolique ce que je dis. Donc, d'être enseignable. Alors, la foi, vraiment, la foi. On dit la foi, croire, etc. D'accord, oui, vous avez compris, là, je vous ai dit, il faut faire grandir la foi par la parole de Dieu, etc. Mais finalement, la définition de la foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset, le premier verset. Nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance. Je répète, or, la foi, que nous voulons amplifier, grandir, nourrir, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que ça ne te dérange pas si tu mettais la traduction semeur? Donc ici, retenez bien. Voilà, la foi, c'est une autre traduction, mais la parole de Dieu se rejoint, mais vous savez, il y a plusieurs traductions. Le sens est toujours le même, quelquefois dans certaines expressions. Plus difficile de comprendre, mais c'est plus profond. Dans d'autres traductions, c'est peut-être plus facile, mais ce n'est pas assez profond. La foi est une façon de posséder. Est une façon de posséder. C'est qu'on espère. Est-ce que vous pensez que c'est assez profond, ça? Oui. Mais une façon de posséder, c'est qu'on espère. C'est qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr de réalité qu'on ne voit pas. Alors, vous voyez, si on s'arrête là, la foi est une façon de posséder, une façon de posséder. Bon, c'est pas très clair. On revient en arrière, Marie. La foi est une ferme assurance. Ben, moi, je préfère là. Je vais faire là parce que voilà. Il faut que j'étudie ce que ça veut dire l'assurance et c'est clair. Ça va? Ferme, fermeté. C'est bon? Ferme, fermeté. Quand votre mari va vous demander la nourriture, et votre femme, elle vous dit, bah, je vais faire autre chose, et lui dit, non, je suis ferme, je veux ça. Fermeté, fermeté. Assurance. Alors, nous étions cambriolés ici il n'y a pas longtemps. Hein, cette salle, on a cassé les portes un peu par-ci, par-là. On vous a envoyé même un petit mot pour ceux qui lisent les infos. Vous vous souvenez? Un peu près de 2 semaines? Voilà, on n'a pas volé grand-chose. Il y avait 50aine d'euros qui... la monnaie des enfants là, qui restaient là-bas. Pardon? Donc voilà, on a volé quelques euros, mais on a surtout cassé les portes, voilà, quelques portes, quatre portes, cassées. Alors qu'est-ce que je fais? D'accord, la police pour constater, ils sont venus. Ensuite, nous avons un certificat, une attestation, on envoie ça à l'assurance. L'assurance nous envoie un expert, et un expert arrive. Et il dit ça, 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 ça. Maintenant, il m'a dit, bon, vous allez demander à un menuisier qui arrive là et qui va faire donc le devis. Le devis, bon, il dit cette porte-là, c'est à changer, cette porte-là, à changer, cette porte-là, à changer. Et cette porte-là, bah, c'est menuisier qui décidera s'il faut changer. Mais 4 portes à changer, ça fait une somme, hein. Ça fait une somme. Et puis en même temps, monsieur, il me pose la question à droite, à gauche, et puis il dit, je connais les églises traditionnelles, mais je n'ai jamais visité une église à lieu de culte évangélique. Ah ben voilà, vous avez l'occasion. Et il était plus intéressé par les lieux que par les portes. Vous voyez, quelquefois Dieu permet des choses parce que ça nous permet de recevoir les gens, on les a même pas invités, c'est eux qui nous ont téléphoné, ceux qui viennent là, c'est eux qui nous fixent le propose un rendez-vous, ils arrivent là, et comme la présence de Dieu est là, ah ben les gens sont touchés. D'accord? C'est bon. Bon, je reviens à l'assurance. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes assurés, nous payons une assurance. Vous comprenez? On ne peut pas se permettre de ne pas payer l'assurance pour tout ça. C'est comme ça. Comme la voiture, vous avez la voiture et vous payez une assurance. D'accord? Ah ben ici, nous payons une assurance. Ah ben pourquoi non payer l'assurance? Ben parce que nous nous autofinançons, nous donnons nos offrandes, nos dîmes, et on peut vivre. C'est formidable tout ça. Alors, l'assurance veut dire, s'il y a des gars, on nous rembourse. Ça va? C'est bon? C'est pas comme ça? Vous avez une voiture, vous avez un accident. Ben voilà, l'assurance vous rembourse les dégâts. Et là, la même chose, ils vont nous rembourser. Quelle comparaison? La foi est une ferme assurance. S'il y a quelque chose qui t'arrivera, si l'ennemi va envoyer une flèche et tu vas recevoir un coup à droite, à gauche, une blessure par-ci, par-là, mais il ne touchera jamais ta vie. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui se passe, nous avons en Jésus-Christ une assurance éternelle. Ah! Quelle comparaison, hein? L'assureur nous rembourse. Voilà, et maintenant je suis allé changer mes lunettes parce que ben, je perds ma. On vieillit, ben, après 40 ans, ben, la vue baisse et puis il faut des lunettes. Ah ben, on paye un peu d'assurance et on a été là. C'était hier pour commander mes lunettes. Mais comme je paye l'assurance, ça ne me coûte pas cher. Donc oui, j'ai perdu ma vue. Il faut les lunettes plus fortes. J'arrive au magasin, puis on s'intéresse, on fait les prix, et c'est parce que j'ai une assurance, ça me coûte pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, or la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc, il faut faire grandir la foi, parce que la foi est une ferme assurance. Assurance veut dire un contrat. Quand vous allez chez un assureur, qu'est-ce qui se passe? On vous parle pendant une heure, et puis après, à la fin, ben, ça n'est pas ce que vous voulez. Mais il y a tellement de choses, donc il faut bien réfléchir pour ne pas se payer pour rien. Vous comprenez? Et puis, on paye l'assurance, et ensuite, on nous demande de quoi? De signer. Allô? Il n'y a personne qui a l'assurance ici? On signe, hein? T'as assuré ton appart? Qu'est-ce que t'as fait? T'as signé chez l'assureur. Ah oui, c'est vrai, hein? Et s'il y a quelque chose qui arrive, le contrat est signé. Le contrat est signé. Et on est remboursé s'il y a quelque chose qui nous arrive. Parce que nous avons signé le contrat. Toujours la question d'assurance. Est une ferme assurance, une ferme assurance. Donc, nous avons signé un contrat, une convention avec Dieu Tout-Puissant. Et ce contrat, c'est quoi? Ce contrat, c'est quoi? C'est quand on a accepté Jésus dans notre vie, on lui a dit, oui, je t'accepte dans ma vie. Au moment où j'ai accepté ma vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai une assurance. Ensuite, je passe par les eaux du baptême, d'accord? Je confirme mon engagement envers Dieu. Je confirme. C'est une appartenance, pas à une religion, à une dénomination, à une église, mais c'est une appartenance à la famille de Dieu, qui est dans le monde entier, qui traverse tous les siècles. Amen. Voilà, donc, nous avons signé un contrat. C'est le salut, et l'appartenance, et ensuite, par les eaux du baptême, voilà, nous confirmons, et notre assurance est valable. Parce que nous sommes assurés, ben, nous sommes assurés. Nous avons la certitude. Nous sommes heureux. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes assurés. S'il y a quelque chose qui se passe, ah ben c'est Dieu qui règle la facture. Dans le domaine spirituel, je ne parle pas la voiture, la maison, etc. Mais Dieu peut nous aider aussi. Ça marchait pour la sixième vitesse. D'accord? Donc, je répète, l'assurance égale à contrat. Et donc, notre vie est assurée par la foi en Jésus-Christ. Nous avons une assurance, une certitude. Maintenant, il faut mettre aux pratiques, mise aux pratiques, cette assurance. Donc, l'Église, ça peut devenir, on peut écrire, ici, c'est l'assurance éternelle, le phare. Non? Parce que quand les gens viennent, ils reçoivent Jésus, ah ben c'est bureau d'assurance. Ça va, vous me saisissez là? Vous avez compris? Dans ta maison, tu peux écrire, ici, c'est l'assurance éternelle. Viens! Et quand quelqu'un vient chez toi dans ta maison, ah ben tu lui proposes l'assurance éternelle, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Amen! La foi en Jésus-Christ est une assurance. Ferme assurance. Donc, mise en pratique, voilà. Et il faut être aussi prophétique. Et notre vie est intouchable, puisque nous avons l'assurance éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver cette mentalité du royaume de Dieu. Par la foi. Alors, le royaume de Dieu, c'est ni manger, ni boire. C'est pas les fêtes, voilà, la boisson, etc. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie. Donc, nous cultivons cette culture du royaume de Dieu, où on sait que c'est Dieu qui justifie, tu étais condamné à la mort éternelle, à tourment éternel, mais Dieu t'a justifié, gracié, libéré. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le fait que tu es justifié, gracié, la grâce. Tu as la paix. C'est ça le royaume de Dieu. La paix. Ah, oh, on est vraiment bien. La paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et avant, nous étions ses ennemis. Et quand nous avons la paix, il y a la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Il y a la joie. Nous réjouissons. C'est une joie réelle. Nous rayonnons. Parce que Jésus est en nous et nous avons cette culture du royaume de Dieu. Alors, je vais prendre encore un verset et ensuite nous allons prier, nous allons déposer nos fardeaux parce que la foi est en train de monter. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 11, et le verset 22 nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Allô? Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez en priant, et il ajoute, croyez. Prie et crois, et que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est la parole de Dieu qui fait grandir ma foi. Quand je lis ce verset-là, ça m'encourage, ça m'édifie, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit, voilà, prie et crois, c'est ce que nous avons vu. Priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, ce matin, il nous reste encore quelques minutes. On va faire un engagement devant cœur. On va s'engager devant Dieu puis on lui dira, Seigneur, j'ai une faiblesse quelque part dans mon corps, dans mes pensées, dans ma compréhension au niveau de ma foi. Je veux me libérer. Je vais me libérer. Et tu vas faire un changement dans ma vie. Et puis ensuite, on va s'engager par la foi dans faire quelque chose cette semaine. On se libère avant et après on s'engage. Et puis on va dire, Seigneur, tu es venu sur cette terre pour sauver ce qui était quoi? Perdu. Tu es venu sur cette terre pour sauver ce qui était perdu. Sauver, ça veut dire libérer. Sauver, ça veut dire de délivrer de quelque chose. Ah ben nous, nous étions perdus et il nous a délivrés de la condamnation éternelle. D'accord? Donc, si tu es venu, Seigneur, pour sauver ceux qui étaient perdus, ben sers-toi moi dans cette semaine. Pas dans cette semaine-là. Sers-toi moi. Et Nali, dimanche prochain, tu viens avec deux jeunes. Dimanche prochain. Quand je dis Nali, vous êtes tous concernés. Ben vous avez la foi ou non? Regarde, Nelly, elle est comme ça. Seigneur, bon Patrick, toi, tu es capable de ramener trois personnes dimanche prochain. Un homme comme toi. Bon, Michael, toi aussi, tu es capable, tu es solide. Allez, trois jeunes. Ah, ça chauffe là. Hein. Même si je nomme pas vos prénoms, Anne-Marie, toi, une, c'est sûr. Tu n'as pas de voiture, je pense, donc c'est plus difficile. Voilà, mais. Voilà. Voilà, on va travailler dans la. On va vivre avec ça dans la semaine. Et attention, si vous n'avez quelqu'un pour dimanche prochain, venez quand même. Hein. Venez, puis vous vous dites. Ça ne marchait pas pour ce dimanche-là, ça va marcher pour dimanche après. Moi, j'ai invité mon voisin pendant les trois jours à Roubaix. Il est venu deux fois. Troisième fois, il n'est pas venu. Ah ben, je n'ai pas été frustré. Il est venu deux fois, il a entendu. Je lui ai dit par téléphone, « Bon, tu viens dimanche avec moi, donc dimanche. » Ben, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Mais là, je vais relancer, je vais relever. Donc, encore une chose. Après, s'il n'accepte pas, je ne vais pas perdre mon temps. Vous avez compris. Hein. Quelquefois, c'est comme ça. Parce que quand la semence tombe dans une bonne terre, ça pousse. Mais quand la semence tombe dans un béton, entre les cailloux, ah ben, on ne changera pas la terre. C'est impossible. Ça ne poussera pas. Donc, il faut accepter l'idée que tout le monde n'acceptera pas Jésus. Mais nous cherchons les gens, voilà cette semence qui est tombée dans une bonne terre. Et puis, on va aller les chercher. Voilà. Alors, Dieu, Seigneur, donne-moi un discernement. Alors, on va vivre la semaine dans cet état d'esprit-là. Dimanche prochain, c'est de la culte au commun. Tu as dit ou non? Non. C'est la culte au commun. Il y a Waterloo qui arrive là. La salle sera pleine. Voilà. Et nous allons faire la présentation. C'est fait ou c'est décidé ou non? On fait la présentation, non? Dimanche prochain. T'as oublié? Alors, Chanel? Bon, oui ou non? Fermeté ou non? Toi, tu es ferme. Bon, ton mari m'a dit oui, donc arrangez-vous. Hein, il m'a dit oui. On va faire la présentation de. D'Esther, c'est un moment où on va prier pour tout ça. Nous aurons Georges, quelqu'un qui vient de Rouen, pasteur, jeune, qui va faire la louange avec ses enfants, une partie de ses enfants. Puis il y aura Virginie qui va voilà, un peu faire de la coordination, encore une dame. Et toute une autre équipe, ça ne sera pas une équipe de chez nous. D'accord? Pour quelquefois, il faut changer. Comme un prédicateur, quelquefois, vous en avez marre, ben j'invite un autre, et voilà, il vous prêche, même s'il prêche moins bien que nous, mais ça passe tellement bien, parce que c'est un invité. Bon, c'est comme ça, c'est naturel. Donc, nous avons un groupe exceptionnel dimanche prochain culte, parce que samedi, c'est le GEM, Grandir ensemble dans le mystère. Engagez-vous, inscrivez-vous, parce que nous avons encore beaucoup de travail. Il y a des ministères parmi nous. Il y a des personnes qui vont pouvoir prêcher, implanter des nouvelles églises, aider l'implant de nouvelles églises, voilà, etc. Donc c'est une formation le samedi, toute la journée, et dimanche, un culte puissant. Alors, Nali, deux personnes, je n'ai pas oublié, j'ai noté. Voilà, il y a Joanne qui va arriver. Lui, ah, bah, lui je l'ai oublié. Lui, c'est au moins trois. Trois aussi. Voilà, ça fait déjà cinq, hein, c'est ça. Trois, ça fait déjà huit. Bon, c'est symbolique ce que je vais dire. Vous comprenez, même si nous avons une personne qui viendra là dimanche prochain, ah ben, on sera heureux, content. Content. Regardez, il y a Véronique qui était là, sans église, sans chrétien, sans la foi. Quelqu'un d'Australie est venu à Lille. Quelqu'un d'Australie qui lui a parlé de l'évangile. Et vous, vous faites quoi? Les Australiens viendront parler à votre place? Ah ben, merci les Australiens. Merci. Et puis, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus, elle veut grandir, elle veut comprendre la parole de Dieu. Et puis quand je vois Olivia, la même chose, elle s'engage aussi pour le groupe, je pense, hein, pour le fondamental, pour mieux comprendre les choses. C'est ça. Hein. Et puis pour ceux qui veulent savoir quelque chose de plus, voilà comment faire, venez nous voir. On est là, tout est là pour vous aider à faire grandir votre foi, et ensuite, quand on a la foi, c'est une assurance. La foi est une ferme assurance. Dites les uns aux autres, la foi est une ferme assurance. C'est une certitude. Alléluia. Ah, ma Seigneur est bon, il est grand. Donc, nous avons... Je vous ai proposé cet engagement, on va prier, je vais prier, mais dans vos cœurs, vous pensez déjà. Bon, Seigneur, dimanche prochain, j'ai encore une semaine,